azzurra. Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule. Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Bonsoir, Kaola, good evening. Une émission placée sous le signe du soleil noir, une émission d'Amuse-Gueule, sous le signe du spleen, de la confiture verte, de la syphilis, de la toxicomanie modérée et pourtant malheureuse, du plus grand tatouage sur le dos de Marilyn Manson, une émission placée sous le signe de Charles Baudelaire. Une émission en très belle compagnie ce soir, puisque nous avons Anne-Sophie à la technique. Bonsoir Anne-Sophie.
Bonsoir.
Et Blandine. Bonsoir. Blandine, sont ces fleurs du mal à la main. Donc une émission spéciale Baudelaire. On parlera des fleurs du mal, on parlera du spleen de Paris, on parlera de syphilis, on parlera des paradis artificiels, on parlera de dandisme, on parlera d'André Breton. Et tout ça. Mais tout de suite, on commence en musique avec ton choix, Anne-Sophie.
C'est Lily Wood and the Prick, et c'est une chanson qui s'appelle Le Chant des Sirènes.
Every step we take drives us away. Do is get much closer. I'm lost in a blue swamp, soaking wet. Creatures calling out to save remains. Will we drown alone? Our lungs filled with regret.
citer un peu plus tôt Marilyn Manson, parce que je me suis rendu compte à la lecture du dernier magazine Q que Baudelaire a toujours son aura rock and roll intact. Le journaliste a interviewé Marilyn Manson sur ses lectures fétiches et oui, il a cité les fleurs du mal. Et j'ai pas vérifié, mais c'était son tatouage. Il aurait une effigie de Baudelaire au milieu du dos.
C'est amusant parce que je me disais, en France, je crois que pour les auditeurs qui ne sont pas français, donc de langue française même, on l'a peut-être pas tatoué dans le dos, mais je crois qu'on l'a tous tatoué en tête, dans nos cœurs. C'est vraiment une poésie avec laquelle on... Pas seulement avec laquelle on grandit, mais dans tous les sens du terme.
On se révèle adolescent.
C'est incroyable. Moi, je me souviens très bien, j'ai la photo de Baudelaire à chasser la photo de Sainte-Thérèse de Lisieux quand même, hein, sur mes murs. Mais est-ce que t'es pas une...
Oui, non, c'est vrai que Baudelaire et Rimbaud sont un peu le Che Guevara de la poésie. Quoi. Ouais.
Et en pensant à cette histoire de Sainte-Thérèse de Lisieux, je me disais d'ailleurs avec Baudelaire, ça prenait toute sa force parce que lui, de toute façon, il a eu une éducation religieuse. Et c'est justement cette éducation religieuse-là, elle est présente dans beaucoup de son travail. Même si elle est prise en porte-à-faux, bien entendu, et parfois en opposition à ça, mais un peu de même que Bataille.
Toujours, parce qu'il a toujours un point de vue moral sur les choses.
Et on a besoin de cette morale-là pour pouvoir la contrecarrer. Donc c'est assez. Donc ouais, effectivement, Baudelaire, c'est quelque chose qui nous est cher à beaucoup de personnes qui parlent la langue française, notamment parce que effectivement, quand on devient adolescent. Il y a cette espèce de révolte, ça porte pas mal de fruits en fait, dont on se gave avec plaisir quand on est adolescent, je pense, et quand on devient adulte. Et je pense aussi que effectivement c'est un goût qu'on garde toute sa vie au bout du compte, non?
Oui, non, c'est aussi une libération en tant qu'ado que enfin découvrir la poésie acceptée par le corps professoral, qui est en prose. Pour moi, c'était une bouffée d'air frais. Ce petit spleen de Paris.
Et je pense aussi Rimbaud. Moi, j'ai toujours eu un peu peur de Rimbaud. Je le trouvais beaucoup plus difficile d'accès, on va dire, plus ésotérique que Baudelaire. Et du coup, Baudelaire, c'était aussi une entrée en poésie qui se fait facilement. Au bout du compte, quand je dis facile, c'est pas la poésie facile. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas,
oui, mais
dans
une langue résolument moderne.
Tout à fait. Ouais. La langue est moderne et elle reste abordable, en tout cas pour quand on. C'est une merveilleuse, incroyable. Entrée en poésie. Moi, je crois que si j'ai étudié la littérature par la suite, c'était pour lui, ma grand-mère qui faisait des lectures, et lui en second lieu, sans aucun problème.
Ah ouais. Alors, je peux vous demander tous les deux pourquoi vous avez choisi de parler de Baudelaire ce soir? C'est tu disais que cette année, c'est les 50 ans.
C'est les 150 ans, donc.
150 ans, pardon.
De sa mort.
Ça fait 3 ans que j'ai envie d'en parler à cette antenne. Mais il fallait cette occasion du 150e anniversaire.
150e anniversaire, ouais, voilà.
De sa naissance, de son décès.
De son décès.
De son décès.
Ouais. Donc, alors justement, est-ce qu'on parle un petit peu de sa vie? Pour ceux qui. Pour par exemple les anglophones qui ne le connaissent pas tellement, quoique je pense que quelqu'un qui s'intéresse à la langue française et peut la comprendre en général le connaît plus ou moins de près ou de loin. Il est né, alors pas loin.
Bon, la seule date que je connais, c'est la date à laquelle il a attrapé la syphilis.
Bon, je crois que ça reste quand même une de tes grandes obsessions.
Alors, c'est quoi la date à laquelle il a attrapé? Est-ce qu'on sait exactement le jour et l'heure où il a attrapé la syphilis?
C'était en juin 1840. On ne sait pas si c'était avec Josepha, donc ça voudrait dire un samedi soir. Ou avec Amandine, ça c'était le dimanche matin.
Il a traîné tôt. Bon, alors donc il est né.
C'était un long week-end.
Tu veux savoir quand il est né?
Oui.
Donc alors je disais, ce qui est incroyable, c'est que comme il y a pas mal de béliers ici dans cette dans cette studio, il est né le 9 avril 1821. Et ce qui est intéressant avec Baudelaire aussi, c'est que il y a énormément de sources pour étudier sa vie en fait. Hein. Il y a eu son ami Charles Asselineau qui a écrit sa biographie très peu de temps après sa mort. Et Baudelaire lui-même a beaucoup écrit sur sa vie. Hein. Il y a des notes, il a écrit des recueils autobiographiques où il y a Mon cœur mis à nu, par exemple. Il a une correspondance qui est très très importante, notamment avec sa mère, hein, avec laquelle il avait des rapports privilégiés. Et donc voilà, on connaît pas mal de choses sur lui. Bien sûr, pas mal de choses viennent de lui, ce qui veut dire que comme c'est quelqu'un qui avait tendance à pas mal broder, il a fallu voir certains, faire pas mal de recherches, je crois, pour être sûr de tout ce qu'il avançait. Bref, pour revenir à peu près sur sa vie, il a perdu son père à 6 ans. Il y a une grosse différence d'âge entre sa mère et son père. Son père avait une 60aine d'années. Et sa mère en avait une 20aine.
Wow.
Ouais, quand son père meurt, sa mère a 27 ans. Et un an plus tard, elle se remarie avec le colonel Jacques Aupic, hein, donc avec lequel, au départ, il a des relations plutôt bonnes. Mais bien entendu, devenant adolescent, ça se corse, puisque le sieur Aupic, en fait, représente pas mal la bourgeoisie, des valeurs que lui réfute complètement. Et les deux vont pas mal se battre pendant pas mal de temps, notamment parce que Aupic voudra que son beau-fils suive un peu le bon chemin. Et bien entendu, on sait qu'il a tout fait sauf suivre le bon chemin. C'était pas du tout dans ses projets de vie, on va dire. Il a obtenu son bac alors qu'il a été... Donc, il a fait la pension. Il est allé à Louis-le-Grand. C'est un lycée qu'on connaît tous si on est parisien. Hein. C'est un des très grands lycées parisiens. Il s'est fait virer, bien entendu. Mais il a donc obtenu son bac alors qu'il est renvoyé de Louis-le-Grand. Et puis, bien entendu, il mène une vie, on imagine bien le type de vie qu'il mène. Il a dû attraper la syphilis à ce moment-là, non? Et donc son beau-père décide de lui faire faire un voyage pour un peu le remettre dans le droit chemin et surtout l'éloigner de Paris, qui est une source constante de mauvaises...
De péché,
on va dire, parmi d'autres choses. Et donc, il le force à partir donc en bateau pour Calcutta. Et en fait, le voyage s'arrête assez rapidement. Il est entre La Réunion et Madagascar. Il revient 3 mois plus tard à Bordeaux, ville d'où il est parti. Alors, par contre, toute sa vie, il va prétendre qu'il est allé aux Indes. Ça, c'est un truc qui revient assez fréquemment. Ce voyage qui n'est pas allé, ouais, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais bon, enfin, dans sa tête, il y est allé, visiblement.
Il est allé jusqu'où ?
La Réunion.
Ah oui.
Donc, il n'est jamais arrivé à Calcutta. Par contre, oui, encore une fois,
il raconte les Indes.
Voilà, il y a passé beaucoup de temps, selon ce qu'il dit. Ce qui fait que pendant longtemps, on s'est demandé s'il y avait été effectivement, mais bon. Donc ensuite, bien entendu, une fois qu'il retourne à Paris, il s'ensuit une vie parisienne avec une production riche, même si ça ne lui permettra jamais d'en vivre aisément. Hein. Il a toujours été un peu l'idée du poète maudit, comme plusieurs de ses pères, et donc il court toujours après l'argent. Il habite dans je ne sais pas combien de lieux différents. Il y a une liste sans fin d'adresses, puisqu'il essaie toujours d'échapper à ses loyers qu'il n'arrive pas à payer. Même si, à une époque, il a reçu pas mal d'argent, puisque quand il a réussi, à partir, je crois que je ne sais plus à quel âge, ça devait être à 21 ans, il obtient l'héritage de son père, qui dilapide assez rapidement en beaux tableaux, belles fringues, etc. Ce qui fait qu'on le met sous tutelle à un moment donné pour justement l'empêcher de claquer son argent. Voilà. Donc là, il écrit, bien entendu, il écrit des choses incroyables. Il est énormément ouvert à toutes sortes d'arts. Alors, il a notamment écrit, il est assez connu pour tous les écrits qu'il a fait sur les salons parisiens. En 45, 46 et 59. Il s'intéresse énormément à Wagner et écrit d'ailleurs en 61 un long texte sur Richard Wagner et Tannhauser, à Paris. Les fleurs du mal, bien entendu, ça je vous en reparlerai un petit peu plus longuement un peu plus tard. Et puis les paradis artificiels qu'il a écrit en 67, le peintre de la vie moderne en 63, peut-être qu'on en reparlera un petit peu aussi. Quoi, la vie moderne, c'est quelque chose qui est vraiment. On retrouve ça chez les impressionnistes d'ailleurs. On retrouve ça. C'est vraiment quelque chose de très attaché en fait au 19e siècle, cette envie d'utiliser la vie de tous les jours comme œuvre d'art. Et donc ça, au même titre que les peintres, Baudelaire en sera dans son écriture, dans les thèmes qu'il aborde, etc., ce sera très important pour lui. Et puis c'est aussi, alors moi qui suis une Parisienne, toi aussi Romain, pour t'es de Paris aussi toi Anne-Sophie?
Non, bon ça va, ça fait trois fois que vous faites le truc de Paris. Non, tout le monde n'est pas de Paris. Bon, voilà. Il y a bon, des Français qui ne sont pas de Paris, figurez-vous.
Non, c'est bien. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà, Baudelaire, c'est aussi, c'est un écrivain parisien, profondément parisien. C'est une ville de, c'est une ville qu'il aime, qu'il a dans la peau et certainement lui qui en, il en parle. Moi, il y a beaucoup
Il aime flâner, c'est le. Ouais. Le grand flâneur dont parlait Walter Benjamin, l'ennemi du Walkman, celui qui est ouvert à toute la poésie que peut créer le petit quotidien, petite chose.
Ouais.
Alors, si vous êtes baudelairien dans l'âme, il est incompatible d'être baudelairien et d'avoir un Walkman sur la tête, d'avoir des écouteurs. Le son de la journée. Ouais. Voilà les jeunes.
Ouais, voilà. Alors, d'ailleurs, dis pas Walkman parce que les jeunes comprendront
pas. Non, ils savent pas ce que c'est, Romain. T'es gentil. Bon, ça montre ton âge. Hein. C'est foutu.
Alors, donc, après cette vie parisienne mouvementée, riche en création, peu riche en argent, il finit en 64, très endetté. Il commence à être sérieusement malade, toujours la syphilis. Et donc, il part pour la Belgique, alors pour y faire des conférences,
pour dire du mal.
Ça tourne vite au vinaigre, comme le vinaigre qu'on met sur les frites, sur les moules frites. Et donc il espère trouver là-bas, parce que bon, on sait qu'à l'époque, la Belgique, d'ailleurs, ils ont toujours de l'avance sur nous, et c'était le cas à l'époque. On pouvait publier des choses en Belgique qu'on ne pouvait pas publier en France. Hein. Et donc ça a toujours été un endroit un petit peu plus libre, on va dire. Et je pense qu'il espérait pouvoir justement y être reconnu, etc. Et en fait, il n'a pas du tout la même aura à Bruxelles qu'à Paris, c'est évident. Et même s'il essaie, il rend visite à Victor Hugo, qui est exilé d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est une vilaine expérience. Les conférences, il essaie de faire des conférences, ça se solde en fiasco. Enfin bon, ça se passe pas très bien. Il n'arrive pas forcément à publier. Enfin bref. Donc, et son état physique se dégrade terriblement au point, finalement, on le rapatrie à Paris. Et à Paris où il meurt, donc en août 67. Voilà. Donc voilà une petite.
Pas vieux quand même. Hein.
Non, pas vieux, il avait 46 ans.
46,
je crois,
ouais.
Donc voilà, un petit survol d'une vie ouais, passionnante et difficile aussi, quand même assez. Assez difficile.
On va écouter. À mon avis, peut-être le plus bel. La plus belle mise en musique de ces poèmes, c'est Gainsbourg qui a mis en musique les vers du serpent qui danse, qui est tiré des fleurs du mal. On écoute.
J'aime voir chair indolente de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents,
Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur. Un ciel liquide qui parfume d'étoiles mon cœur.
Voilà, c'était le fameux serpent qui danse.
En hommage à Duval, Jeanne Duval.
Hommage à Jeanne Duval,
enfin,
indeed.
Bon,
un petit mot sur les paradis artificiels qui est souvent mal compris parce qu'on le saisit souvent comme une apologie des drogues, en particulier du hashish et du laudanum, de l'opium, alors qu'il n'en est rien. C'est avant tout un ouvrage de morale où il défend les vertus du vin contre ceux du hashish. Alors on parle souvent du club des hashishins, des Fantasia, où lui et quelques autres dont le capitaine Fracas, Théophile Gautier, fréquentait assidûment. En fait, il n'en est rien. Baudelaire les fréquentait en touriste, enfin comme des attractions, des distractions. Mais s'il avait une accoutumance, c'était uniquement celle de l'opium. Car elle avait réputation à l'époque de guérir les maladies vénériennes dont celle dont était affecté Baudelaire, la syphilis.
Sans pas la nommer.
En 1840. Alors, faut savoir que la syphilis se manifeste en plusieurs étapes qui sont un peu dégoûtantes. D'abord, par des chancres, puis une roséole, et enfin une attaque neurologique qui peut bouleverser la marche, comme c'était le cas de chez Baudelaire, puis qui peut conduire à la paralysie, ce qui était aussi son cas, et à la mort.
Oui,
à la mort.
Qu'est-ce que tu appelles des chancres?
Des chancres, ce sont des petites choses, j'invente là tout en parlant, ce sont des petites choses purulentes et nauséabondes. Une sorte de...
Oui, non, mais si t'inventes, ça m'intéresse pas.
Non, mais c'est ça. C'est
à la radio. Ce n'est pas un lieu de vérité.
Alors justement, ça c'est
magie.
Alors voilà quelque chose que Baudelaire avance beaucoup. Il est absolument pas pour la réalité, mais pour la beauté. Et c'est quelque chose qu'il avance surtout, c'est-à-dire que peu importe si effectivement on dise des choses réelles, ce qui est important, c'est qu'elles soient belles. Ceci étant, les choses purulentes, est-ce que c'est
beau ? C'est pas beau,
mais en même temps, le mal est beau aussi, donc je crois que t'es baudelairien, là, c'est bon.
Ah oui, je crois tout à fait dans le pouvoir de fascination du chancre. Notamment le chancre mou.
Bon, et alors, la syphilis, ça fait penser, on avait parlé à cette antenne d'un film que j'aimais beaucoup, qui s'appelle La Polonide, qui se passe dans un bordel, à peu près à cette époque-là, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Et une des prostituées meurent justement de la syphilis, donc il y a tout un passage là-dessus justement. Ouais. C'est une maladie bien entendu qu'on attrape avec des relations sexuelles. Tu as oublié de le préciser.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que la drogue en tant que telle n'était pas décriée, n'était pas condamnée, notamment par l'opinion médicale, qui était même favorable, parce que beaucoup de drogues avaient vertu de soigner. Elles étaient notamment utilisées en anesthésie, et on n'y voyait pas encore les pouvoirs, les ravages liés à la dépendance.
Est-ce que tu sais si légalement c'était autorisé?
Oui, c'était encore autorisé.
D'accord.
Notamment la cocaïne. Et ce qui est chose encore plus curieuse, c'est que l'Église ne trouvait pas à s'en offusquer outre mesure des drogues, en tout cas pas plus qu'à l'usage que l'usage immodéré de l'alcool. En fait, ce qui leur déplaisait, c'était son atteinte au pouvoir à la vertu de tempérance, à la maîtrise dont l'homme doit faire preuve preuve dans la recherche du plaisir et du respect qu'il doit à son propre corps, qui est le temple divin. Anecdote bizarre, c'est que l'Église condamnait surtout dans l'usage des drogues, c'était son usage anesthétique, surtout en cas d'accouchement, parce qu'il allait à l'encontre des écrits bibliques selon lesquels la femme doit accoucher dans la douleur.
Oh, ouais. Punaise.
Mais bien sûr, Blandine,
oui, je sais,
on accouche dans la douleur.
Et est-ce que
les effets de l'opium,
ça dépend à quelle dose on en prend, parce qu'on sait que les écrits de Baudelaire sont en fait des échos à ce que Thomas de Quincey avait écrit. Ça dépend des doses, mais ce sont des doses à...
C'est quoi, c'est l'hallucination?
Oui,
c'est une perception différente du monde.
Oui, c'est aussi comment cette correspondance entre comment ça s'appelle ça,
oui.
Entre les couleurs où on peut entendre des
sensoriels.
Non, ouais, c'est un nom particulier. Les autistes en sont spécialistes d'ailleurs. Et il y a Huysmans qui avait écrit Harbour, qui s'appuie énormément là-dessus aussi.
Qui nous permet de voir des couleurs, d'entendre des couleurs, de...
Ouais.
Ah, d'entendre les couleurs.
De voir la musique.
Oui, peut-être ça avec le LSD aussi.
Oui,
il y a un nom.
À très forte dose.
Bon, on va le retrouver.
Il y a un nom, oui, on va retrouver ça. Ouais.
Donc... toujours est-il que donc lui a une approche assez morale au bout du compte de la prise de drogue.
Quand tu dis morale, j'ai du mal, alors, j'ai du mal à saisir.
Morale en ceci que il a vu tout de suite l'emprise, la violence que la violence. Que la drogue pouvait exercer sur celui qui goûtait par goût de l'aventure, et il disait que celui qui croit s'y adonner va vite y tomber. Il écrivait, on ne croit jamais se vendre en bloc, mais on oublie qu'à la fin on a toujours affaire à plus fort que soi, et que l'esprit du mal, même quand on ne lui livre qu'un cheveu, ne tarde pas à tout emporter. C'est un problème. Il le voyait comme un problème d'équilibre, un problème d'équation entre les organes et la jouissance. Il avait vraiment le soin de la tempérance.
J'imagine qu'en termes de travail aussi, de création, c'est quelqu'un qui était extrêmement attaché à son travail, à sa création littéraire, et il devait peut-être aussi se rendre compte de cette espèce de limite que ça pouvait poser à cette création.
Et tu as tout à fait raison, et c'est là où il voit la supériorité du vin sur le haschich. Je vais vous lire dans le dernier paragraphe des paradis artificiels, où en fait il résume sa pensée et la supériorité du vin sur le haschich. Le goût frénétique de l'homme pour toutes les substances, saines ou dangereuses, qui exaltent sa personnalité, témoigne de sa grandeur. Il aspire toujours à réchauffer ses espérances et à s'élever vers l'infini. Mais il faut voir les résultats. Voici une liqueur, là c'est le vin, qui active la digestion, fortifie les muscles et enrichit le sang. Prise en grande quantité même, elle ne cause que des désordres assez courts. Voilà une substance, le haschich cette fois-ci, qui interrompt les fonctions digestives, qui affaiblit les membres et qui peut causer une ivresse de 24 heures. Le vin exalte la volonté, le haschich la inhibe. Le vin est un support physique, comme tu disais Blandine, le vin est une arme pour le suicide. Le vin rend bon et sociable, le haschich est isolant. L'un est laborieux pour ainsi dire, l'autre essentiellement paresseux. À quoi bon en effet, et ça c'est important, à quoi bon en effet travailler, labourer, écrire, fabriquer quoi que ce soit quand on peut emporter le paradis d'un seul coup? Enfin, le vin est bon pour le peuple qui travaille et qui mérite de boire. Le haschich appartient à la classe des joies solitaires. Il est fait pour les misérables oisifs. Le vin est utile, il produit des résultats fructifiants. Le haschich est inutile et dangereux.
C'est peut-être un
donc,
truc.
Donc, vous parlez de morale.
C'est peut-être un texte, peut-être okay. un texte à donner pour contrer la légalisation de la marijuana, par exemple.
Non, mais enfin, quoi répondre à ça? On a là une drogue, enfin, comme toutes les drogues, enfin, non, certaines drogues qui permettent d'accéder à un bien-être immédiat sans passer par une construction. Et Baudelaire disait que, ouais, quoi. Et comme tous les surréalistes par la suite, qu'il faut sécréter ses propres stupéfiants.
Oui, oui.
C'est en soi, c'est à travers la poésie, le rapport exigeant au monde et des sacrifices au beau qu'on peut atteindre, oui, le beau, le bonheur. Synesthésie, c'est le mot qu'on cherchait. Merci Anne-Sophie. Phénomène neurologique par lesquels deux ou plusieurs sens sont associés. Et donc des systèmes de correspondance qu'on a dans ces textes. Il y a d'ailleurs un texte des Fleurs du Mal qui s'appelle Correspondance,
exact,
n'est-ce pas?
Oui. Oui.
Voilà, j'en ai fini des Gudreau.
Qui nous...
Oui. Alors je vous.
Qu'est-ce que tu
vous
mets?
Alors je voulais vous passer une chanson qui moi m'évoque Baudelaire. C'est The Host of Seraphim. Et Seraphim, je pense, faudrait que je fasse un peu plus de recherche, mais que c'est une référence à Séraphin. Séraphin qui organisait donc ces fameuses fantasias. On fumait beaucoup.
Est-ce que vous voulez que je vous lise Correspondance avant qu'on écoute? Je l'ai là sous les yeux. Là,
sous les yeux. Vous tu nous lis Correspondance avant
oui.
que ça commence?
Oui,
allez.
Ça vous dit? Alors. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il y a des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts-bois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Thank you.
Anywhere out of the world. N'importe où hors du monde. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne ? Il doit y faire chaud, et tu t'y raguillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau, on dit qu'elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût, un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour le réfléchir. Mon âme ne répond pas. Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante ? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées ? Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts et les navires amarrés au pied des maisons ? Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage, nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe marié à la beauté tropicale. Pas un mot. Mon âme serait-elle morte ? En es-tu donc venu à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal ? S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la mort. Oh, je tiens notre affaire, pauvre âme, nous ferons nos mâles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique, encore plus loin de la vie si c'est possible. Installons-nous au pôle. Là, le soleil ne frisque obliquement la terre et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié de néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres. Cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d'artifice de l'enfer. Ah, enfin. Enfin, mon âme fait explosion, et sagement, elle me crie n'importe où. N'importe où, me dit-elle, pourvu que ce soit hors de ce monde.
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Ça vous évoque quelque chose, ça? Quand je l'ai réécouté pour la première fois, je me suis dit, ah oh, oui, je connais ce texte. Donc c'est le troisième poème des Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, on a parfois tendance à résumer Baudelaire à ça, même s'il y a, comme on le disait tout à l'heure, énormément d'écrits différents et variés, tous aussi riches. Mais Les Fleurs du Mal, c'est un recueil de poésie qu'il a mis du temps à en accoucher, on va dire. Il en a parlé à peu près 12 ans avant sa première publication. Et la publication elle-même ne s'est pas faite facilement. Donc il a publié en 1857 le premier recueil des Fleurs du Mal, qui, au bout de 2 mois, s'est tout de suite fait arrêter à la suite d'un article très négatif dans Le Figaro. Et donc il s'est retrouvé bien sûr en procès. Le magistrat était le même que celui qui avait intenté un procès.
Qu'est-ce qu'il lui reprochait
à Madame Bovary? Alors ce qu'on lui reprochait, c'était atteinte aux bonnes mœurs, notamment parce que, alors ce qui est assez amusant, c'est que il y a plusieurs poèmes sur lesbos autour de l'homosexualité féminine. Et en fin de compte, c'est pas ça qui a tant dérangé à l'époque, puisque même Balzac avait, je crois que c'est La Fille aux yeux d'or, avait écrit sur le thème sans que ça pose aucun problème. C'était plutôt le côté satanique, en fait, de l'amour. Sadique de l'amour qui dérangeait, en fait, qui ont pas mal dérangé à l'époque. Et alors, sur à peu près les 120 poèmes, il me semble qu'on voulait lui en faire enlever 6. Et plutôt que d'enlever les 6 poèmes et de laisser le volume tel quel, Baudelaire a voulu complètement l'enlever, en fait, enlever le recueil, pour la bonne et simple raison qu'il avait énormément travaillé l'équilibre total de son recueil, et que pour lui ça devenait bancal, ça tenait plus la route. Et donc ce n'est qu'en 61 qu'il publie un deuxième recueil qu'il complètement retravaillé, changé, et auquel sont ajoutés les tableaux parisiens, qui est quand même une part importante aujourd'hui. Donc quelque part, ce procès nous permet aujourd'hui d'avoir des Fleurs du Mal encore plus riches, complètes. Alors donc, je voulais juste parler rapidement du titre, Les Fleurs du Mal, parce qu'en fait c'est un titre auquel on s'est beaucoup habitué, et en même temps on oublie du coup un petit peu la force de contestation, en fait, qui porte le fait que le mal peut être beau, et en même temps Baudelaire ne tombe pas dedans, il se complaît pas dans cette idée du mal. Il sonde le péché, puisque comme on l'évoquait tout à l'heure en début d'émission, il a grandi dans un milieu catholique, il a une idée de morale avec laquelle on peut pas dire qu'il joue avec mais en tout cas il travaille autour de cette idée-là, et d'aller à l'encontre de, justement, c'est une idée du beau qui est plus du tout une idée du beau telle qu'on la voyait jusqu'alors, mais parler de la réelle beauté des choses, comme on le disait aussi tout à l'heure, pas forcément liée à la réalité, pas forcément liée, certainement pas liée justement à des valeurs morales. Et donc voilà, c'est en ça que c'est ce qu'on disait aussi par rapport à cette attirance de ces poèmes quand on est adolescent. C'est effectivement, il y a une révolte sourde par rapport à toutes ces choses-là qui sont établies. Et notamment, on est quand même au 19e siècle, une époque où la bourgeoisie est très 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 forte, impose ses idées à l'ensemble de la société. Et donc tout ce que l'art offre à cette époque-là, en fait, va à l'encontre de ces poncifs, de cette morale bien établie, et ainsi que les idées religieuses qui vont avec, d'ailleurs. Alors donc on parlait des pour parler rapidement des tableaux parisiens. Donc Baudelaire, ce qu'on disait aussi, c'est que c'était un poète de Paris. Il aime flâner dans Paris et cette flânerie, il sort pas n'importe comment. C'est, je fais un peu un saut de chat, mais lui qui aimait bien les chats d'ailleurs. C'est aussi un dandy, c'est quelqu'un qui se balade, mais qui est toujours impeccablement habillé, qui même quand il avait plus un sou, était tenu justement à cette apparence. Et l'apparence, c'est une question de beauté d'ensemble. Est-ce que je...
Non, c'est un effort à la fois où le moral, où la morale et le physique se conjuguent, se mélangent. Le dandy, c'est celui qui doit vivre et mourir devant son miroir. Mais ça veut pas. On associe parfois dandysme et excentricité. Alors c'est vrai qu'il a été écrit que Baudelaire se promenait avec des boas de plumes roses autour du cou. Mais le dandysme, c'est pas de l'excentricité forcément. On n'est pas forcément dans le punk. C'est une élégance morale et physique de chaque instant. C'est une aspiration à être sublime sans cesse, sans interruption. Et Breton ajoute ça, le dandysme, c'est aussi le plaisir de provoquer sur son passage une longue rumeur désapprobatrice. Ce qu'il y a dans l'enivrant, dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire, disait Baudelaire.
Breton, tu veux dire? Ou Baudelaire?
Je sais pas, c'est entre guillemets dans mon texte, et je sais pas de qui je les phrase, si c'est à moi, l'un ou l'autre, qu'importe. Ouais. J'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. Des one-liners, des répliques, des bons mots de Baudelaire, une fois brûle pour point à Nadar, le photographe. Est-ce que tu apprécierais pas avec moi une petite cervelle d'enfant? Ça doit avoir un petit goût de noisette, tu comprends? Ou alors un bourgeois qui lui vantait le mérite de ses filles. Et laquelle, messieurs, de ces deux jeunes personnes destinez-vous à la prostitution? ou alors celle-ci que j'aime beaucoup. Alors, un passant qui ne voulait pas lui donner du feu parce qu'il ne voulait pas faire tomber la cendre de son cigare. Oh, pardon, monsieur, auriez-vous l'extrême obligeance de me dire votre nom? Je voudrais à tout prix garder le nom de l'homme qui tient à conserver cette cendre. Et la meilleure entre toutes, celle que tous les dragueurs devraient connaître par cœur, à une jeune femme qui l'accostait dans une brasserie. Mademoiselle, vous que les épis couronnent et qui m'écoutez avec de si jolies dents, je voudrais mordre en vous. Je voudrais vous lier les poignets, vous attacher au plafond de ma chambre. Alors je me mettrai à genoux et je vous baiserai les pieds. C'est très bien.
Ça, sans doute,
le sarcasme, c'est vraiment un sport national. Hein.
Ça a sans doute super bien marché. C'est amusant parce que cette idée de dandy, c'est aussi accepter une certaine féminité. Et je trouve que les hommes français ont ça en eux, en fait. C'est qu'on a, c'est marquant quand on habite en Nouvelle-Zélande, où justement être homme, c'est être macho, etc. En France, les hommes n'hésitent pas à être féminin. Il y a un truc tout simple. Ils ont toujours des foulards autour du cou. Ils ont des tas de... Et je me suis toujours dit, c'est amusant, ce dandysme de Baudelaire. Aujourd'hui, il existe toujours dans ce que sont les hommes français. C'est-à-dire avoir aucunement peur de sa féminité et justement en jouer parfois. Et ça m'a toujours marqué, surtout quand je suis arrivée ici, de voir qu'effectivement, cette féminité en question n'existe pas. Moi, ce que je voulais faire, c'est lire quelques... Alors, je suis un peu plus près de la réalité, mais quand je suis allée en France, il y avait justement à l'occasion justement du 150e de la mort de Baudelaire, il y avait un numéro spécial du Point qui est paru, et donc avec plusieurs articles très agréable à lire. Et donc, une spécialiste du dandisme, j'aime bien ça, je trouve ça génial, les spécialistes du dandisme, Marine-Christine Natta, parle de Baudelaire. Et elle dit notamment, Baudelaire porte un masque, et le masque est la caractéristique du dandy. Or, il se revendique dandy. C'est pour lui la seule règle de vie valable. Comme Barbier d'Aurevilly, il a théorisé cette philosophie de l'apparence qui consiste à se construire comme si on était une œuvre d'art, par besoin de se distinguer et d'attirer le regard. Baudelaire est un esthète, d'où son rapport très particulier à l'argent, qui n'est qu'un moyen d'exprimer le beau dans tous les aspects de sa vie matérielle. Il a ainsi dépensé des sommes folles dans des meubles de prix, des tableaux, de grands maîtres et bien sûr en vêtements et en chapeaux. Mais même devenu pauvre, il a mis un point d'honneur à être toujours bien habillé. Il portait en permanence une chemise blanche et quand elle était usée, il en faisait une avec deux. Un gilet boutonné très haut permettait de cacher la misère. De même, ses chaussures étaient trouées, mais cirées. Ses mains étaient aussi toujours très soignées. Tous les témoignages le montrent, son appartement de l'hôtel Pimodan était d'un goût très sûr et surtout original. Il avait un vrai talent pour la décoration et aurait, à mon avis, fait un très bon designer. Ainsi, il avait choisi pour ses livres de très sobres reliures en maroquin, le plus raffiné des cuirs. Pour sa chambre, au lit d'acajou, des appartements bourgeois, il préfère un lit en fer d'hôpital, oh, la classe, d'une grande simplicité. Il aimait la sobriété à une époque plutôt encline, à la surabondance ornementale. Et elle ajoute enfin, il ne me semble pas que ses habitudes d'élégance soient destinées à la galerie. Elles sont plutôt destinées à sa satisfaction personnelle, qui dépasse le simple plaisir narcissique. Ce n'était d'ailleurs pas un mondain, même s'il avait une vie active, une vie sociale active. Voilà.
C'est bien. C'est bien. On écoute Léo Ferry qui chante La Beauté.
Excusez-moi. Apparemment, on l'écoute sur YouTube.
Non, je regardais la télé en même temps.
Ah oui, d'accord. Donc, Léo Ferré.
Léo Ferré.
Je suis belle au mortel, en mon rêve de pierre. Mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx indompté. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments. Consumeront leurs jours en d'austères études, car j'ai pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux, aux clartés.
Bientôt, nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. J'entends déjà tomber avec des chocs funèbres les bois retentissants sur les pavés des cours. Tout l'hiver va rentrer dans mon être. Colère, haine, frisson, horreur, labeur, dur et forcé. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. J'écoute en frémissant chaque bûche qui tombe. L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier infatigable et lourd. Il me semble, bercé par ce choc monotone, qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui ? C'était hier l'été, voici l'automne. Ce bruit mystérieux sonne comme un départ. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, douce beauté, mais tout aujourd'hui m'est amer. Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre, ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Et pourtant, aimez-moi, tendre cœur, soyez mère. Et même pour un agrame, même pour un méchant, amante ou sœur, soyez la douceur éphémère d'un glorieux automne ou d'un soleil couchant. Courte tâche, la tombe attend, elle est avide. Ah, laissez-moi mon front posé sur vos genoux, goûter en regrettant l'été blanc et torride de l'arrière-saison, le rayon jaune et doux. Le silence qui suit de Baudelaire est encore de Baudelaire. C'est ça qui est important.
Bah, il est surtout de Dead Can Dance, le silence.
Oui, mais c'est un silence d'excellente qualité. Non, prête-y l'oreille. C'est un silence assez riche.
Oui.
D'une éloquence que parfois de longs discours n'ont pas. Ce silence, je te l'adresse. À toi. En particulier. émission.
À la semaine prochaine.
À très très bientôt. J'espère que si vous on réfléchit à des émissions sur Henri Michaud, sur d'autres, sur Villiers-l'Isle-Adam, on va faire monter là-bas. Je vous promets. On va faire monter le